du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Gourdon, 104.8.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence midi en direct jusqu'à 13h et bonjour à vous Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver pour ce Présence midi, et un Présence midi que nous allons consacrer en partie à la candidature du Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Exactement, je vous embarque à 2877 mètres d'altitude, j'ai déjà la tête dans les étoiles. Effectivement, nous allons parler de cette candidature, de ce lieu emblématique des Hautes-Pyrénées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et nous aurons deux invités pour cela. D'abord, Nicolas Bourgeois, qui est le directeur général adjoint du Pic du Midi, en première partie. Et puis ensuite, Jean-Bernard Saint-Pastous, qui est animateur territorial au sein de l'inspection académique dans les Hautes-Pyrénées. Nous expliquerons qu'ils ont fait partie d'une délégation pour promouvoir cette candidature à l'Élysée.
On va en parler dans cette émission, et puis on va détailler également l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec pas mal d'événements. On parlera notamment d'un pèlerinage des époux et des pères de famille programmé dans quelques jours.
Exactement, ça se passera début juillet, mais les inscriptions sont maintenant, messieurs.
Dans cette émission également, on aura le plaisir de recevoir l'Office de tourisme de Lourdes, et on va évoquer la laine des Pyrénées. Voilà.
Ah bah oui.
Voilà pour les grandes lignes de cette mission.
Tu vois, j'ai des chaussettes, des petits gilets, tout ça, pour pouvoir monter au Pic du Midi et avoir bien chaud.
Écoutez, voilà, la chronique est faite. C'est moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Midi 2, c'est le moment de faire un point sur l'actualité régionale avec les titres qui seront développés à 12h30 par Sacha Boudet-Pouplier, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
L'Occitanie lance un ambitieux programme de cartographie des espaces naturels grâce aux satellites et à l'intelligence artificielle afin de mieux protéger la biodiversité. À Toulouse, les étudiants de l'IPSA ont réussi le premier vol d'essai de leur planeur électrique et solaire, un projet tourné vers l'aviation bas carbone. Jusqu'à 38 degrés attendus cette semaine en Ariège, avec une vague de chaleur précoce qui s'installe sur tout le département. Le festival des sorcières de Puy-Astruc est finalement maintenu après le départ des gens du voyage installés sur le stade. En Aveyron, le moulin de Vias retrouve une nouvelle roue à eau, symbole de la renaissance de ce site patrimonial. Et puis enfin, toujours en Aveyron, la tour médiévale de Marciel ouvrira exceptionnellement ses portes cet été, offrant aux visiteurs l'accès à son intérieur et à son panorama pour la première fois de son histoire.
Merci Sacha Boudet-Pouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ses titres dans le journal.
Présence à Moissac, 93.3.
Rebonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles.
En détail avec vous l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, et on va commencer avec ce pèlerinage des époux et pères de famille. C'est dans quelques jours.
C'est dans quelques jours, ça se passe du 3 au 5 juillet prochain. Départ vendredi 3 juillet à 13h30 depuis la chapelle Saint-Joseph, la petite chapelle Saint-Joseph dans le village de Haussan, à côté de Tarbes, pour une arrivée, pardon, le dimanche 5 juillet au sanctuaire marial de Poueilhain. C'est à Arins-Marsous dans le Val d'Azun. Ce jour-là, eh bien, après leur arrivée dans ce beau lieu de pèlerinage, ce beau sanctuaire marial, eh bien, les familles pourront retrouver ces pères de famille, ces hommes, ces époux marcheurs, voilà, qui auront cheminé pendant un peu plus de deux jours pour les inscriptions. Eh bien, ça se passe dès maintenant. N'hésitez pas, messieurs, à aller sur l'application Au Clocher ou sur le site de la paroisse de Tarbes, où vous trouverez toutes les, et du diocèse, où vous trouverez donc toutes les informations. Il suffit de remplir un petit Google Form et de venir avec ses chaussures de marche le vendredi 3 juillet à 13h30.
Des jeunes vont partir à Lisieux. Ces jeunes proposent d'amener des lettres pour les déposer à Lisieux.
Exactement, ce sont des jeunes étudiants et professionnels, jeunes professionnels du diocèse de Tarbes et l'Aude qui partent en pèlerinage cet été donc à Lisieux. Ils vont même aller au Mont-Saint-Michel. En tous les cas, lorsqu'ils passeront à Lisieux, eh bien, ils se proposent d'emmener, de déposer vos lettres, vos intentions de prière sur la tombe de Sainte Thérèse. Alors, pour pouvoir eh bien, écrire, confier vos joies, vos peines, vos intentions de prière à Sainte Thérèse de Lisieux, vous pouvez faire un petit mot et déposer dans une boîte aux lettres prévue à cet effet dans la cathédrale de Tarbes d'ici le 20 juillet. Et puis, les jeunes récupéreront toutes les enveloppes et donc les amèneront, partiront avec en pèlerinage. Bien sûr, ils n'ouvriront pas vos courriers, mais ils les déposeront sur la tombe de Sainte Thérèse de Lisieux et en les conduisant, eh bien, ils porteront dans leur cœur, c'est une manière pour eux aussi de porter dans leur cœur vos intentions de prière.
On poursuit avec ce parcours pour les personnes séparées, ça va se passer à Tarbes et c'est ce soir?
C'est ce soir, ce mardi 16 juin à 20h à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul à Tarbes. C'est un temps convivial et un temps d'information proposé par une équipe de chrétiens divorcés qui propose un parcours pour cheminer après une séparation. Si vous êtes séparés, divorcés en nouvelle union, eh bien vous pouvez vous joindre à ce moment de partage et de fraternité. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, donc à 20h ce soir à la maison Saint-Paul.
La paroisse de Bagnères de Bigorre organise son assemblée générale.
Ensemble, faisons grandir notre paroisse. Voilà la promesse de cette journée du samedi 20 juin. C'est samedi prochain, cet après-midi plutôt. Alors, c'est à Bagnères de Bigorre que ça se passe, mais c'est pour toute la paroisse du pays de Bagnères, tout le Haut-Adour qui va jusqu'à Campan, même au-delà de Campan, et qui embarque Ciotat, Le Haut Marquisat, Trébons, Montgaillard, tous ces petits villages. En tous les cas, si vous êtes de cette grande paroisse du pays du Haut-Adour, n'hésitez pas à vous joindre à partir de 16h ce samedi 20 juin à cette grande après-midi d'Assemblée Générale. Ça se passe en l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre. À 16h d'abord l'Assemblée Générale qui sera suivie de la messe et puis ensuite il y aura le partage d'un repas tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, là les informations sont également sur l'application au clocher du diocèse et de la paroisse Notre-Dame du Haut-Adour.
Voilà, après la paroisse après Bagnères de Bigorre, direction Tarbes, à côté de Tarbes, à Pouillastruc, avec la fête de la communauté chrétienne.
Exactement, la paroisse Tournaille-Pouillastruc qui nous invite à sa fête paroissiale qui aura lieu à Laslade. C'est un petit village de cette paroisse. C'est ce dimanche 21 juin à partir donc de 10h30. Vous avez rendez-vous d'abord pour la messe qui sera célébrée en l'église de Pouillastruc et puis ensuite direction Laslade où un apéritif sera offert, suivi d'un repas convivial. La participation est de 20€ pour les adultes, 10€ pour les plus jeunes. Voilà, les modalités d'inscription sont sur le site du diocèse catholique 65.fr. Vous voyez qu'en cette fin d'année pastorale, voilà, eh bien, les paroisses font la fête, se rassemblent, prient ensemble, voilà, pour rendre grâce pour tous les mois passés et puis sans doute aussi pour déjà préparer l'année pastorale à venir.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Comme chaque semaine, on va faire un point d'étape sur le bulletin religieux, le bulletin du diocèse de Tarbes et Lourdes. Où en est-il?
Il a bien avancé, il est en train d'être mis en page, peaufiné pour une impression d'ici la fin du mois. Et dans ce numéro spécial pastoral du tourisme, vous aurez un tas d'idées de sorties, d'expos, de concerts, de découvertes d'églises, de tout notre patrimoine religieux, voilà, pour découvrir à fond les Hautes-Pyrénées pendant l'été. Alors si vous avez l'intention de partir ailleurs que dans les Hautes-Pyrénées, c'est une mauvaise idée, restez parce qu'il y aura plein de choses à faire.
Voilà, ben, c'est un beau teasing en tout cas, on aura l'occasion évidemment d'en parler du contenu de ce bulletin diocésain, le bulletin du diocèse de Tarbes et Lourdes, donc qui s'apprête à sortir, vous l'avez dit, dans quelques jours maintenant.
Oui, et s'il peut se faire, ce numéro spécial, c'est grâce à toutes les personnes qui sont mobilisées dans toutes les paroisses, notamment pour la pastorale du tourisme. Ils sont très 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 nombreux, un petit peu partout. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais dans toutes les paroisses, dans toutes les 10 grandes paroisses du diocèse de Tarbes et Lourdes, eh bien, il y a des personnes qui se mobilisent pour que, eh bien, durant tous les 2 mois d'été, il se passe beaucoup d'événements ouverts à tous.
Voilà, et on salue tous ces bénévoles qui peut-être nous écoutent en ce moment dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Un grand merci, voilà, pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Catholique65.fr et l'application au clocher sont à votre disposition pour trouver tous les renseignements et d'autres informations indispensables. Merci Androse Jankovic. Dans un instant, eh bien, on va vous retrouver, on va évoquer avec vous la candidature du Pic du Midi pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO dans un instant.
On embarque pour 2877 mètres d'altitude, ça fait rêver.
Et voilà, et on va vous retrouver juste après un tarbé qui s'appelle Sylvain Dutu.
Mamie parle du temps, c'est pas si pire ce grand soleil, ce petit vent. Comme on respire, mamie nous fait la météo, n'a rien à dire mais nous prévient s'il fait trop chaud. Quand on se fâche, mamie surveille et surtout guette le cours des nuages, elle aurait pu être thermomètre. Quand ça s'engueule, mamie évite et fuit l'outrage, débarrasse seule et s'en va plus loin de l'orage. Elle prend pas part, mamie, elle dit qu'elle comprend pas toutes ces histoires, même si ça anime les repas. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge, et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison, loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Mamie souligne, elle a raison, qu'il fait bien noir et surtout froid pour la saison. Comme c'est marrant, mine de rien, mamie savoure tous les instants, mamie, elle connaît bien l'amour. Comme d'habitude, mamie sifflote un petit air, finit sa flûte et se lève comme un courant d'air. Elle est légère, mamie, elle est comme le vent, sert le dessert, elle fait la pluie et le beau temps. Elle prend pas part, mamie, elle dit que c'est pas pour elle, mais elle se marre, elle adore quand c'est le bordel. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge, et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison, loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge, et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison, loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On va consacrer une partie de cette émission à la candidature du Pic du Midi pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO avec vous, Andros Jankovic.
Et mon invité, bonjour Nicolas Bourgeois.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint du Pic du Midi. Vous avez fait partie de la délégation pyrénéenne qui s'est rendue à l'Élysée il y a tout juste une semaine, le mardi 9 juin dernier, pour soutenir la candidature du Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez nous raconter ça dans un instant, mais d'abord peut-être un petit peu d'histoire. Janvier 1878, pose de la première pierre, sous laquelle d'ailleurs, je crois, est enterrée une boîte qui contient des documents qui commémorent précisément cet événement. Avant la pose de cette première pierre, le Pic du Midi était déjà un lieu scientifique. À partir de quand c'est un lieu qui a été repéré comme étant un lieu exceptionnel, unique, qui pouvait être promis à ce destin?
Alors, on peut soupçonner que ça a toujours été le cas depuis quelque part les peuples préhistoriques et chasseurs-cueilleurs, puisque c'est une montagne qui est un observatoire naturel, puisque depuis le haut du Pic du Midi, on peut voir extrêmement loin. Aujourd'hui, on sait qu'on peut voir jusqu'à Toulouse, au contrefort des montagnes méditerranéennes, jusqu'à l'Atlantique à l'ouest. Et on a retrouvé des traces de passage, et notamment une pointe de flèche qui a été trouvée par le général Nansouty. Et au fur et à mesure, c'est quelque part le changement du regard sur la montagne à partir du XVIIIe siècle qui va amener la science véritablement à monter au sommet du Pic du Midi. Et le premier projet d'observatoire, il est porté par Ramon de Carbonnière, qui venait prendre les eaux à Barèges et qui a beaucoup herborisé au sommet. Et ce premier projet d'observatoire a été interrompu par la Révolution française. Donc on voit qu'il y a une grande antériorité avant d'arriver à la première pierre de 1878.
Donc très vite, en fait, c'est un lieu qui a été repéré comme pouvant être à la fois un lieu exceptionnel pour observer la montagne, mais bien au-delà de la montagne, hein, parce qu'on observe surtout le ciel. Est-ce qu'on a... Oui, surtout le ciel, c'est juste de dire ça?
Alors c'est juste, mais pas que, puisque initialement, ce qui a vraiment motivé l'installation de l'observatoire, c'était finalement la géodésie. Donc la géodésie de mieux comprendre la Terre, de mieux la dessiner, l'appréhender ou l'arpenter. Et assez rapidement, c'est la météorologie au milieu du 19e siècle. La météorologie devient un vrai enjeu stratégique, militaire, etc. Et on comprend qu'il faut monter plus haut en altitude pour mieux comprendre ce qu'il se passe en haute atmosphère. Et progressivement, on comprend aussi, à la moitié du 19e siècle, que certains points d'altitude, certaines montagnes, offrent des conditions d'observation astronomique extraordinaires. Encore faut-il le courage, l'engagement d'un ensemble d'acteurs pour venir construire une cité scientifique à près de 3000 mètres d'altitude.
Oui, parce
et là,
que,
ce sont les populations locales qui rentrent en jeu aussi.
Voilà, les fameux porteurs du pic, hein, donc les habitants, les paysans de la vallée qui montaient les matériaux nécessaires pour construire le bâtiment, l'observatoire tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est ça ?
Exactement, et ça permet aussi de comprendre quelque chose de très spécial avec l'observatoire du Pic du Midi, c'est son caractère éminemment pionnier. L'installation de l'homme en haute altitude à partir du 19e siècle, elle est encore extrêmement rare. L'observatoire du Pic du Midi, c'est le premier et le plus ancien observatoire de haute montagne du monde, et il faudra attendre près de 80 ans pour que cette implantation en haute altitude à travers le monde se généralise. Et ça, on peut le comprendre parce qu'il y avait des populations locales, il y avait une fréquentation de la montagne, le pastoralisme, donc les bergers, les chemins, et donc toute cette population de porteurs et d'habitants qui a prêté main forte pour ravitailler, pour construire, et qui a permis aux scientifiques de maintenir leur implantation en un milieu extraordinairement hostile.
Donc les scientifiques sans les populations locales n'auraient pas pu faire du Pic du Midi ce qu'ils en ont fait aujourd'hui.
Et c'est ça. Et c'est là où l'histoire devient magnifique, c'est que cette dimension pionnière, cette ancienneté et cette durée de vie, puisque 150 ans plus tard, l'observatoire fonctionne toujours avec cette valorisation touristique qui a toujours été sur le pic, mais qui est devenue réellement stratégique il y a 25 ans, ce modèle-là subsiste toujours et c'est vraiment cette dynamique-là, ce rapport vivant à la montagne, donc c'est un patrimoine vivant, une interaction avec la montagne que l'on inscrit au patrimoine mondial. Et ce que l'on inscrit, c'est la dimension paysagère de tout ça, c'est un paysage culturel que l'on défend aujourd'hui devant l'UNESCO.
Donc ça c'est intéressant parce que vous êtes en train de nous dire, Nicolas Bourgeois, que l'enjeu scientifique ne piétine pas l'enjeu touristique, et l'enjeu touristique ne piétine pas l'enjeu scientifique, mais qu'au contraire, ils collaborent, et c'est ça précisément qui fait que le Pic du Midi est le bon candidat pour le patrimoine mondial de l'UNESCO.
Exactement. Le patrimoine mondial, c'est une règle du jeu qui est la même pour toutes les nations. Et il y a un certain nombre de règles auxquelles il faut absolument se soumettre. La première, c'est d'avoir une valeur universelle exceptionnelle. Donc une dimension patrimoniale vraiment extraordinaire, et à ce point extraordinaire qu'elle va transcender les frontières, elle va transcender les générations, et elle va demander aux générations futures de se responsabiliser vis-à-vis de ça. Donc il faut vraiment apporter quelque chose de particulier. Et là, ce que l'on apporte, c'est cette dimension d'une conquête scientifique et pacifique de la montagne, qui témoigne d'un rapport nouveau à la montagne qui émerge il y a près de 200 ans, et qui voit la nature comme un vecteur de développement des sciences, des connaissances, et finalement de la condition humaine. Et qui va faire paysage dans une logique harmonieuse où cette cité observatoire fonctionne comme un prolongement scientifique de la montagne. Et si cette interaction cesse, le Pic du Midi et son observatoire, ce paysage-là disparaîtrait aussitôt, étant donné les conditions difficiles de la montagne qui amèneraient l'ensemble à se ruiner extrêmement rapidement. Donc il y a une nécessité à vivre et à interagir.
Tel que vous nous le présentez, ça semble facile, évident, mais au quotidien, comment tous ces enjeux-là cohabitent ? Comment ça se passe une journée au Pic du Midi entre les scientifiques et les touristes ?
Alors, je pense que pour se l'imaginer, il y a une comparaison que je trouve assez juste. C'est comme s'imaginer un navire en pleine mer qui serait continuellement en porte ouverte. Donc, un navire en pleine mer où vous avez la gestion des machineries, la gestion de l'intégrité du bâtiment et de la coque pour éviter que le bateau coule, affronter les éléments, les tempêtes, etc. Faire cohabiter tout un ensemble de métiers dans un espace restreint. Vous allez passer du monde de la restauration au monde des mécaniciens, aux scientifiques de pointe vers les médiateurs culturels et scientifiques, etc., etc. Et tous ces métiers-là cohabitent, on l'a dit, dans un espace relativement restreint, dans des conditions extraordinaire, hein, près de 3000 mètres d'altitude, et accueille en continu des publics, que ce soit nos visiteurs qui permettent le maintien des infrastructures de vie à l'accès, et toute la communauté scientifique qui a des attentes et des exigences aussi sur la performance des installations. Donc c'est ça, faire fonctionner le PIC tous les jours, 24 heures sur 24, hein, vu qu'on travaille avec la nature, les levers, les couchers du soleil, le balai des étoiles et la météo.
Il y a toujours quelqu'un, toujours une équipe au sommet du Pic du Midi.
Le Pic ne dort jamais. Ça c'est clairement, quand on arrive au Pic du Midi, on sait qu'il y a une part nécessaire de passion, parce que c'est un lieu magnifique, magique, mais un lieu qui éprouve. Mais c'est sans doute ça aussi qui est quelque part représentatif de ce que nous sommes. C'est aussi dans la contrainte que nous nous exprimons. Et là, on a exprimé, je pense, une belle idée de ce que peut être l'élévation, justement, de l'humanité par les connaissances et la science, et aussi l'émerveillement que l'on propose à notre public. Et en effet, le Pic ne s'arrête jamais, ne serait-ce que le téléphérique. Vous voyez, les motrices du téléphérique du second tronçon sont au sommet. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir toujours une personne en place là-haut pour démarrer le téléphérique. Donc, on ne doit jamais faire cesser l'occupation du sommet.
Vous en êtes où de la procédure, du processus pour inscrire précisément le Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO? Il y a une semaine, vous étiez à l'Élysée avec toute une délégation, et notamment des jeunes. On va en reparler en deuxième partie d'émission avec Jean-Bernard Saint-Pastous. Mais on imagine qu'une cérémonie à l'Élysée pour promouvoir cette candidature, on se dit c'est tout gagné. Si Emmanuel Macron, si le président Macron soutient, c'est bon, ça coche toutes les cases, c'est gagné.
Et si seulement.
Qu'est-ce qui manque?
Alors, qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, le soutien du président de la République, c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire du point de vue de la volonté de l'État et de la mobilisation des acteurs. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'État, en fait, qui dépose sa candidature au devant de l'UNESCO. Ce ne sont pas les acteurs en local. Même si nous portons depuis quasiment aujourd'hui une dizaine, voire une quinzaine d'années ce dossier, c'est à la fin, dans tous les cas, un choix de l'État de déposer notre candidature. Mmh. Et donc, cette volonté du président de la République annoncée depuis 2018, pour nous, ça a été un encouragement, et ça a poussé une dynamique, en fait, qui nous a permis d'y croire et de savoir que la France nous suivrait. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, plus que nous suivre, la France nous porte. Néanmoins, c'est une évaluation internationale au devant de laquelle tous les pays sont égaux. Quelle que soit la volonté de l'État, c'est la qualité du dossier qui est présenté, la qualité de la démonstration de la valeur universelle exceptionnelle, mais également de tout le système de gestion, c'est-à-dire nos garanties de conservation du bien que nous apportons dans la candidature, qui vont être évaluées. Et cette évaluation, nous sommes dedans en ce moment, l'UNESCO nous évalue, c'est 18 mois d'instruction. Les évaluateurs, nous ne les connaissons pas, ils sont anonymes, donc ce qui fait qu'il ne peut y avoir aucune ingérence, influence, quoi que ce soit, de la part de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le soutien du président de la République, c'est un symbole extraordinaire, puisque pour nous, c'est la première fois déjà dans l'histoire d'un patrimoine mondial français qu'il y a un tel soutien, une telle mobilisation du plus haut niveau de l'État. Mmh. Et c'est aussi, je trouve, un regard et une mise en avant d'un patrimoine tout à fait nouveau, hein, celui d'un patrimoine, on l'a compris, scientifique, culturel, vernaculaire, etc., qui est mis en avant par un chef de l'État. Et c'est extraordinaire pour un endroit comme le Pic du Midi, qui a traversé tant de difficultés, qui a été tant de fois menacé de fermeture. Là, pour nous, c'est un véritable encouragement, puisque la motivation première de notre candidature, c'est que ce lieu, on l'a compris, ne soit jamais abandonné aux tempêtes et à l'oubli, ne perde jamais la vie.
Ça veut dire
la vie
aussi,
au sens premier, on l'a compris.
Ça veut dire aussi que c'est pas une fin en soi d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qu'après il faut continuer le travail, se retrousser les manches, avoir des projets, plein de projets. Quels sont les projets du Pic du Midi?
C'est exactement ça, c'est un engagement pour le futur. Donc les projets, tout d'abord, c'est de maintenir la valorisation touristique qui aujourd'hui, pour un lieu de culture, on le voit, c'est une vraie difficulté, c'est de maintenir des équilibres économiques, etc.
Même au Pic du Midi, c'est un défi.
Alors aujourd'hui, non, justement, c'est ça qui est superbe, c'est qu'on a en 25 ans, avec le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi, conçu un modèle économique dont personne n'aurait soupçonné la possibilité. On pensait que le pic du Midi serait structurellement déficitaire pour ad vitam aeternam, disons-le comme ça. Mmh. Et aujourd'hui, on a un modèle économique où on est équilibré, on a une capacité à maintenir les installations, à réinvestir. Et ça, ça permet au monde des scientifiques de l'Université de Toulouse, de l'Observatoire Midi-Pyrénées, de ne se concentrer uniquement que sur les investissements scientifiques.
Donc c'est-à-dire que grâce au tourisme, au développement du tourisme, eh bien, la science peut assurer son travail. C'est ça que vous nous dites?
C'est exactement ça. Et c'est un modèle que nous trouvons très vertueux et je m'amuse souvent à le comparer au modèle de la Sagrada Familia. C'est-à-dire le projet de Gaudi qui aujourd'hui peut aboutir et voir le jour parce qu'il y a eu une économie de la valorisation touristique pour financer la construction du monument. Et le pic du Midi aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que chaque euro investi au pic du Midi est immédiatement réinvesti dans le sommet, dans l'observatoire. C'est une structure intégralement public, il n'y a aucun reversement de dividendes à des actionnaires, à des privés. On est dans une mission de service public. Et c'est ça, en fait, quand on parle de futur, c'est que ce modèle-là, qui n'était pas espéré, voire soupçonnable il y a encore 25 ans, bah, ce modèle-là perdure. C'est notre seule ambition, c'est celle-là. Et si il y en a une autre, c'est de bien comprendre que ce n'est pas d'augmenter la fréquentation touristique, puisqu'elle est plafonnée par le téléphérique, mais par contre, dans l'éventualité d'une fréquentation différente ou qui pourrait augmenter, ça sera au profit des territoires qui s'en empareront.
Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous fascine dans ce lieu? Alors, on entend que vous êtes passionné, Nicolas Bourgeois, et on vous comprend. Mais alors, je crois qu'au début, vous étiez descendu dans le sud-ouest plutôt pour la mer, pour le surf, pour les vagues. Et finalement, vous êtes passionné du Pic du Midi. Vous nous le racontez avec une passion qui s'entend. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours fasciné par ce lieu, que vous y restez, que vous vous impliquez à ce point-là dans ce dossier de candidature pour l'UNESCO?
Ben, en fait, c'est une histoire, je pense, que toute personne passionnée par l'observation des étoiles peut comprendre, ou une histoire qui peut être ressentie par chacun. C'est cette fascination pour l'observation, et finalement, qu'on soit du nord de la France, de l'Europe entière ou du monde entier, le Pic du Midi, c'est un vrai symbole, un emblème de cette beauté, de l'émerveillement, de l'humanité qui observe les étoiles. Et pas uniquement à des fins scientifiques. J'aime beaucoup à imaginer qu'il y a 30 000 ans, le chasseur-cueilleur s'interrogeait sur sa place dans l'univers ou dans la nature qui l'entoure en regardant les étoiles. Et de descendre en fait vers le sud, avec un petit crochet vers les vagues de l'océan, c'était pour finalement échouer, j'ai envie de dire, au sommet du Pic du Midi. Ça a toujours été un horizon, un repère. Et je pense faire partie d'une génération on l'entend souvent dans la quête de sens. Là-haut, je trouve que c'est le sens incarné dans la montagne et dans la pierre de ce bâtiment. Des grandes idées, des idéaux, que ce soit la science, le pyrénéisme, les arts, la culture, qui ont pris corps dans ce bâti, et de voir aussi l'histoire qu'il y a derrière, celle d'engagement d'hommes et de femmes depuis des décennies. C'est presque une parabole, finalement, ce lieu, d'où cet engagement ou cette passion qu'on peut entendre dans mes mots pour un tel lieu. Voilà, je trouve que c'est un privilège pour une génération, pour un individu tel que moi, de pouvoir faire ma part dans une telle aventure.
Toute cette aventure, toute cette histoire, c'est raconté aux touristes qui viennent au Pic du Midi. Il y a toute une partie historique quand on arrive. Ça, c'est important aussi pour vous de dire aux gens qui débarquent, eh bien, vous en avez plein les yeux, mais il y a une histoire derrière tout ça. Si on peut être là, c'est qu'il y a des personnes qu'on donnait, alors certains de leur vie, mais en tous les cas, beaucoup de leur temps.
Oui, tout à fait. Et c'est quand on parlait d'universalité tout à l'heure, c'est celle-là qu'on transmet. Le public, à quasiment 99,9%, vient avant tout pour le panorama, l'expérience d'un paysage extraordinaire. Et une fois arrivé là-haut, il voit ses coupoles se détacher sur un horizon de montagne. Et là, c'est une histoire à la Jules Verne qui commence à émerger devant ses yeux. Et forcément, il y a une curiosité, il y a une fascination pour cette histoire-là. Et on comprend au fur et à mesure que chacun peut ressentir aussi en quoi il a quelque chose de commun avec cette histoire. Cette idée du dépassement de soi, de l'aventure, de la curiosité, ou tout simplement cette fascination qu'on peut avoir pour les beautés de la nature, des paysages, de l'alternance, de la météo, des saisons, etc. Et on est embarqué finalement dans cette histoire et dans un paysage, et c'est ça que j'aime beaucoup, un paysage que l'on croirait tout droit sorti d'un roman de la fin du 19e siècle, en fait. Voilà, ou tout plus récemment d'un film de Star Wars.
Merci beaucoup, Nicolas Bourgeois. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général adjoint du Pic du Midi, vous nous parliez ce midi de cette candidature du Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans quelques instants, au micro de Radio Présence, il y aura Jean-Bernard Saint-Pastous, animateur territorial au sein de l'inspection académique dans les Hautes-Pyrénées. Il nous racontera comment les élèves que vous avez embarqués avec vous mardi dernier à Paris ont vécu ce moment. Et d'abord, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à l'Élysée?
Merci Anne-Rose.
Merci
à
vous, Nicolas Bourgeois.
Présence.
Merci.
Pour le moment, il est quasiment 12h30 sur les pentes de Radio Présence. Bon appétit avec nous et avec Sacha Boudet-Pouplier, qu'on le retrouve pour le journal régional. Sacha est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous. L'Occitanie mise sur l'innovation pour protéger sa biodiversité. La région lance un vaste programme de cartographie des milieux naturels grâce aux satellites et à l'intelligence artificielle. Pendant 3 ans, les forêts, zones humides, prairies ou encore espaces littoraux seront observées depuis l'espace afin de suivre leur évolution face au changement climatique et à l'urbanisation. Portée par l'entreprise toulousaine CLS, spécialiste de l'observation de la Terre, ce projet doit permettre aux collectivités de mieux protéger les espaces naturels et d'anticiper leurs décisions d'aménagement. Cap également sur l'innovation, mais cette fois-ci dans le ciel. Après 3 années de travail, les étudiants de l'IPSA de Toulouse ont réussi le premier vol d'essai de leur planeur électrique et solaire. Développé par l'association étudiante Ipsolaire, cet appareil expérimental veut démontrer que les jeunes ingénieurs peuvent contribuer à construire une aviation plus respectueuse de l'environnement. Les essais réalisés ce week-end marquent une étape importante avant de nouveaux développements futurs. La chaleur, elle, s'installe durablement sur la région. En Ariège, les températures pourraient atteindre jusqu'à 38 degrés cette semaine. Les météorologues annoncent une vague de chaleur précoce avec des nuits de plus en plus chaudes et recommandent de limiter les activités physiques aux heures les plus chaudes tout en restant bien hydraté. Dans les Hautes-Pyrénées, les organisateurs du Festival des sorcières de Piastruc sont finalement rassurés. Après plusieurs jours d'incertitude liés à l'installation de gens du voyage sur le stade communal, leur départ permet de confirmer le maintien de l'événement, prévu comme chaque année, avec spectacle, animation et marche artisanale pour ce week-end. En Aveyron, le patrimoine reprend vie à Bias. 20 ans après sa réhabilitation, le moulin du village retrouve une nouvelle roue à eau. Ce chantier permet de remettre en fonctionnement ce symbole du patrimoine local et de valoriser un savoir-faire traditionnel auprès du public. Et puis enfin, toujours en Aveyron, une bonne nouvelle pour les amateurs de patrimoine. La tour médiévale de Martielle ouvrira exceptionnellement ses portes au public cet été. Les visiteurs pourront découvrir l'intérieur de ce monument habituellement fermé, ainsi que sa terrasse offrant un panorama remarquable sur la campagne environnante. C'est la première fois que la tour ouvre au public.
Et merci à vous, Sacha Boudet-Pouplier. Voilà, étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info à 13h avec l'actualité nationale et internationale.
Comprendrais-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier? D'amour, toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes, en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles? On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers, au retour de tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas. Don't feel
assourdis. Et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. Il est un estuaire, un enfleuve de soupirs, où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère, au long de plage de silence.
Finistère interprété par les Innocents. Allez, on continue avec Anne-Rose Jankovic d'évoquer la candidature du Pic du Midi pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées.
Présence dans le Grand Toulouse 97.9.
Bonjour Jean-Bernard, ça va tous?
Oui, bonjour.
Vous êtes animateur territorial au sein de l'inspection académique dans les Hautes-Pyrénées. Vous avez, il y a tout juste une semaine, conduit des élèves des Hautes-Pyrénées, des lycées des Hautes-Pyrénées, à Paris pour une soirée un peu particulière, puisqu'il s'agissait eh bien, de promouvoir notre fameux, célèbre Pic du Midi dans le cadre de sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, vous allez nous raconter comment ça s'est passé, parce qu'on est un petit peu curieux de savoir comment vous avez passé ce moment à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron, mais d'abord ces élèves que vous avez emmenés à Paris pour cette mission un peu spéciale, comment vous les avez choisis? Pourquoi vous les avez choisis eux? Je crois qu'ils étaient 300 environ, c'est ça?
Alors non, ils étaient, bon, il y avait plusieurs niveaux, puisqu'il y avait des écoles, une école de Juillan, hein, des primaires de Juillan, et moi j'avais la responsabilité d'amener des lycées professionnels des Hautes-Pyrénées, pour répondre aux exigences de l'excellence qui correspondaient un petit peu au thème de la soirée, puisque le Pic du Midi c'est l'excellence, et puis se placer dans cette dynamique de labellisation de l'UNESCO. Donc nous avions une trentaine d'élèves de lycée professionnel des Hautes-Pyrénées.
Dans une délégation beaucoup plus large et beaucoup plus complète.
Tout à fait, il y avait 300 personnes, au moins 300 personnes, je n'ai pas compté, mais il y avait énormément de monde, beaucoup de gens des Hautes-Pyrénées, mais aussi de l'Université de Toulouse, puisque le Pic du Midi est aussi axé dans un pôle scientifique avec l'Université de Toulouse, et puis bien sûr quelques Parisiens aussi.
Alors, est-ce qu'on peut savoir de quels établissements sont ces élèves et qu'est-ce qu'ils ont à montrer de l'excellence, puisque c'est le terme que vous employez?
Oui, merci. Le choix était un petit peu complexe, et puis le mois de juin n'est pas un mois très facile pour l'éducation nationale, parce que les jeunes sont en examen, les enseignants sont aussi en examen, Donc on est parti un petit peu sur former les au métier du territoire et du domaine, et on a parlé aussi de plusieurs thèmes. Donc on avait pris des élèves du lycée professionnel de Bagnères-de-Bigorre, hein, pour parler des activités équipements touristiques, puisqu'il y a une section bac pro transport par câble et remontée mécanique qui est depuis 3 ans installé au lycée à Bagnères.
Oui.
Ensuite, on avait pris un autre établissement, des élèves d'autres établissements du lycée Réfi de Tarbes, pour parler des métiers d'art et du textile, puisqu'ils travaillent depuis quelques années aussi, eux, sur la valorisation de la filière laine à travers un projet qu'on appelle l'Atela. Et puis, bien sûr, 2 établissements bien connus sur les Hautes-Pyrénées, c'était le lycée de la Rouza et le lycée de l'Autre-Hermont, un à Tarbes, un à Lourdes, sur les métiers de l'hospitalité, de l'accueil et bien sûr de la restauration.
Oui, alors c'est vrai, quand on pense au Pic du Midi, on pense d'abord à un lieu bien sûr touristique, mais aussi scientifique. Finalement, en emmenant ces élèves pour promouvoir la candidature du Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une manière de montrer que l'excellence, elle se joue à tous les niveaux, et que le Pic du Midi, finalement, il embarque avec lui un tas de domaines de formation. C'est ça que vous vouliez montrer ?
Tout à fait, vous avez entièrement raison. Et puis, il faut savoir que de nombreux jeunes qu'on a amenés la semaine dernière, hein, puisque mardi dernier à 7h, on était déjà à Paris, ils ont pour certains soit fait des stages, soit travaillé directement ou indirectement avec le Pic du Midi. Donc ils étaient particulièrement motivés, bien sûr, de rencontrer le président de la République, mais aussi de venir présenter leur qualité, leur excellence, et puis ce qu'ils avaient pu faire durant leurs 3 ans de bac pro ou de BTS pour certains aussi, puisque nous avions quelques élèves de BTS.
Ouais, alors c'est très encourageant ce que vous dites, Jean-Bernard, ça passe tout, parce qu'on voit bien que ces jeunes-là que vous avez embarqués, qui sont très jeunes, hein, les lycéens, donc ils ont quoi, 16, 17 ans.
Ouais, 18 ans pour certains. Hein.
Ils se sentent impliqués dans la promotion de leur territoire. Ça, c'est quand même pas banal.
Oui, tout à fait. Alors, ils sont impliqués, d'abord, comme je vous le disais, à travers leur implantation dans un lycée de notre territoire, mais aussi lorsqu'ils font des stages, parce que vous savez, en lycée professionnel, on fait énormément de stages dans les entreprises. Et pour certains, c'est un moment fort, et puis de prendre des compétences en dehors de l'établissement, et ça leur permet aussi d'augmenter, d'ouvrir leur vue, et puis le réseau aussi, qui est important pour eux.
C'est une manière pour vous de leur dire à ces jeunes qu'il y a de l'avenir dans tous ces métiers d'excellence, qui sont parfois quand même un petit peu des niches. Quand vous nous parlez de l'art et du textile, on se dit a priori c'est une niche, on voit pas tout de suite le rapport avec le Pic du Midi, mais est-ce que c'est une manière pour vous de leur dire en fait il y a de l'avenir, allez-y, continuez, foncez, quoi.
Mais bien sûr, et d'abord, il faut que les élèves ils aient vraiment envie de se trouver dans cette branche où ils sont, d'être bien, et puis d'avoir une vision de leur carrière aussi.
Oui.
Donc l'excellence, ça peut aider. Tout le monde ne sera pas dans l'excellence, effectivement, hein, dans ces métiers-là, mais beaucoup peuvent y rêver et peuvent atteindre leurs rêves. Mmh. Dans les élèves que nous avons emmenés l'autre jour, mardi dernier à Paris, certains ont déjà des contrats d'apprentissage avec des grandes sociétés ou cherchent des apprentissages. Je suis vraiment très optimiste pour ces jeunes-là.
Alors justement, faites-nous rêver un petit peu, puisque vous les avez fait rêver à Paris. Alors racontez-nous quand même, parce que d'abord, faut savoir qu'ils ont eu du courage, ces petits jeunes, puisqu'ils sont partis en bus depuis Tarbes pour rejoindre Paris. Donc ils sont arrivés à Paris peut-être un peu fatigués, mais en tous les cas, fallait pas le montrer. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, et ce moment à l'Élysée pour ces jeunes, comment ça s'est passé ?
Alors d'abord, effectivement, on a passé 2 nuits dans un bus, mais on l'a pas ressenti. On a senti vraiment un groupe très.
Mais vous étiez avec eux tout le temps.
Oui, j'étais avec eux. J'ai eu ce plaisir parce que c'était vraiment un plaisir. C'était des jeunes vraiment qui ne se connaissaient pas, puisque c'était 3 établissements, avec certains même à travers des établissements, des sections professionnelles différentes, donc ils ne se connaissaient pas obligatoirement. Et c'est vrai qu'il y a eu un effet de groupe. D'abord, il y a eu beaucoup d'émotions de monter à Paris. Je pense que beaucoup d'abord ne connaissaient pas Paris, donc du coup, on a pu faire une petite visite en bus le matin, puisqu'on est arrivé très tôt. À 7h, on était à Paris. Donc on a pu, grâce au chauffeur, faire un petit tour de Paris. Et puis après, on avait prévu un petit programme avant d'arriver à l'Élysée. On a fait le Panthéon. On a été reçus au Sénat par les sénatrices. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'élèves ont dit qu'ils avaient été touchés par le Sénat déjà de voir ce bel ensemble. de discuter, de visiter l'hémicycle. Et puis le soir, ben, on avait préparé, donc dans le bus on a pu discuter, les jeunes avaient préparé un petit peu des présentations pour le président de la République. Mmh. Et puis certains, je pense aux jeunes filles de Réfi du métier d'art et du textile, leur motivation, c'était de rencontrer Brigitte Macron, surtout.
Évidemment.
Échanger avec Brigitte Macron sur les métiers de la mode.
Et oui.
Donc, elles ont eu la chance de pouvoir discuter longuement avec elles. Donc, elles étaient très, 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 très satisfaites.
Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ce moment, Jean-Bernard Saint-Pastous?
Eh bien, moi, je, d'abord...
À titre peut-être très... plus personnel, c'est...
Alors, que... à titre personnel, bon, moi, on connaît un petit peu mon histoire politique, donc j'ai eu l'occasion déjà d'aller plusieurs fois à l'Élysée. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était d'amener des élèves,
oui.
Vraiment, pour la première fois, des élèves de lycée professionnel. Donc, ils n'ont pas l'occasion souvent d'être trop mis en valeur. Donc là, on les a mis en valeur. Et puis, de voir au retour le matin, quand on était après deux nuits de bus... qu'ils soient venus, pour certains, nous remercier, nous dire vraiment, c'était super, on a passé un moment inoubliable, et puis on a pu mettre en avant ben, ce dont on a travaillé pendant 3 ans. Ça, c'était une très belle récompense pour nous, pour toutes les équipes pédagogiques, les proviseurs, puisqu'il y avait les proviseurs des établissements avec nous. Et ça, c'était vraiment un bon moment.
Voilà, ben on peut monter au Pic du Midi pour observer les étoiles, mais les étoiles, ils en ont certainement eu plein les yeux et plein la tête, ces jeunes avec vous, Jean-Bernard, ça passe tous.
Merci
d'avoir été avec nous, merci pour ce retour. Donc, je rappelle que la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, vous étiez à Paris avec des élèves des lycées des Hautes-Pyrénées pour promouvoir le Pic du Midi dans le cadre de sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un grand merci à vous.
Merci à vous, merci à Radio Présence.
Merci aussi à vous, Anne-Rose Jankovic. Voilà pour cette page spéciale consacrée à la candidature donc du Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, dans un instant, reste dans les Pyrénées, puisqu'on va parler de la laine des Pyrénées grâce à l'Office de Tourisme de Lourdes. C'est dans 3 minutes sur Radio Présence.
Présence.
Présence à l'Albinque 92.5.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Aujourd'hui, dans nos balades en pays de Lourdes, on va parler de la laine des Pyrénées avec Elaïa. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. Avant de parler du savoir-faire, un mot de cette laine des Pyrénées et de ce lien avec le pastoralisme.
Oui, avant tout, la laine, c'est une histoire de montagne. Donc, elle vient directement du pastoralisme. Elle est liée aux troupeaux de brebis, aux estives, aux villages de montagne et aussi à la transhumance. Donc, chaque année, les troupeaux montent en pâture. Donc, c'est un mouvement qui fait partie de la vie pyrénéenne depuis un certain moment maintenant. Et la tonte se fait au printemps.
Un mot maintenant du savoir-faire avec cette laine des Pyrénées.
Oui, donc derrière la laine, il y a tout un ensemble de gestes et de savoir-faire, comme laver la laine, la carder, la filer ou la tisser. Donc ce sont des gestes anciens qui se transmettent dans les familles. Et ça montre à quel point cette matière est liée à une vie rurale et montagnarde.
Alors une fois qu'on a cette laine, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fabrique évidemment des vêtements.
C'est ça, elle a une fonction très pratique et c'est avant tout une ressource locale. Donc elle sert à fabriquer des vêtements chauds, solides et adaptés au climat de montagne. Donc on pouvait s'en servir pour faire des couvertures, des capes, des vestes ou encore des tricots.
Alors l'utilisation de la laine s'est développée à la fin du 19e siècle.
Oui, c'est ça. Donc ce n'était plus une activité domestique ou paysanne. Donc avec la mécanisation et l'industrialisation de la laine. Donc il y a plusieurs communes du Piémont qui sont devenues des lieux importants pour cette activité. Donc on peut citer Saint-Gaudens, Pau, Oloron, Bagnères de Bigorre, Bruges ou encore Pontac. Donc ça, elles sont plus en activité aujourd'hui. Mais on peut encore trouver une usine en activité à Luz et c'est la Carde. Et à cette période, on voit apparaître une petite économie autour du lainage pyrénéen avec des ateliers, des commerces, des produits reconnus. Et une identité, toute une identité qui se construit autour de cette matière. Et donc Lourdes, c'est pas forcément le lieu principal de production, mais plutôt le lieu de vente, avec tous les passages et l'accueil au sein de la ville.
Voilà, et des commerces donc de laine, on peut en trouver notamment à Lourdes et évidemment dans plusieurs villages du département des Hautes-Pyrénées. Voilà pour la laine des Pyrénées. Grâce à vous, Elaïa, on en sait davantage. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique Balade en Pays de Lourdes.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di luce in mezzo al mare, persone noti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te we'll be right back. della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue dinte vene, sai. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai.
Le journal.
Le journal.
La foi, l'espérance et la charité, trois vertus chrétiennes qui doivent être au centre de la réponse des sociétés.